Année qui démarre, on se réjouit tous. Je ne sais pas si vous avez continué à lire l'évangile de Jean. Je vous rappelle, on est sur l'évangile de Jean depuis quelques semaines, quelques mois. Et aujourd'hui, nous devions lire le chapitre 10 de l'évangile de Jean. Et ce qui est super, c'est qu'il y a plein de promesses merveilleuses dans le texte qu'on va prendre ce matin. Mais ces promesses, elles ont divisé celles et ceux qui les ont entendues et celles qui les entendent encore aujourd'hui. Certains diront, ce sont les paroles d'un fou, d'autres diront qu'elles sont paroles de Dieu. Jésus, il a dit, je suis la lumière du monde, et la lumière, elle a cette double fonction d'éclairer, mais aussi d'aveugler. Et quand elle aveugle certains, elle le fait tout en révélant la culpabilité de ceux qui s'endurcissent dans leur péché. Et ma prière ce matin, c'est qu'à la lecture des paroles de Jésus, on va lire tout le chapitre ensemble, ben vous receviez ces promesses comme promesses de Dieu pour vous, et qu'ainsi elles transforment, qu'elles continuent à transformer vos vies, nos vies à chacun. Alors le texte qu'on va lire, le chapitre 10, il vient à la suite du chapitre 9. Et j'aimerais juste vous juste présenter un peu le contexte. Jésus a guéri un aveugle dans le chapitre précédent, un aveugle de naissance. Et celui-ci va rendre témoignage de ce qu'il a vécu. Et les pharisiens, les autorités de l'époque religieuse, mettent en doute sa parole, et on va dire qu'ils le malmènent un peu, car ils témoignent que Jésus doit venir de Dieu par ce qu'il lui a fait. Ils mettent en doute sa parole, ils font même venir ses parents pour lui demander si vraiment cet homme était aveugle-né. Et l'aveugle, en fait, il reconnaît humblement son ignorance, mais il s'en tient aux faits. Si on relit le verset 32 du chapitre 9, il dit « Jamais encore on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Dans l'Ancien Testament, la guérison des aveugles est associée à la venue du jour du Seigneur. Il y a plusieurs versets dans Isaïe qui en parlent, à l'intervention de l'envoyé de Dieu. Et pour un juif, ce miracle devait révéler le statut divin de celui qui l'a fait, de Jésus. Mais les pharisiens rejettent cette idée avec force. Remplis d'orgueil, ils le jettent dehors. Et ils lui disent des mots très durs, « Tu es né tout entier dans le péché et c'est toi qui nous enseignes ?» Et notre texte du jour vient directement à la suite de ces événements. Jésus parle, plusieurs sont là, et il s'adresse en particulier, on va dire, entre autres, aux pharisiens. Mais il n'y a pas que les pharisiens, la foule est plus large. Et on va lire au chapitre 10. J'espère que vous avez vos Bibles, parce que je n'ai pas prévu de diaporama ce matin. Donc je vous invite à ouvrir vos smartphones, vos Bibles, au chapitre 10 de l'évangile de Jean. C'est Jésus qui parle. « en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre point par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par un autre côté, celui-là est un voleur et un brigand. » Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les mène dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes celles qui lui appartiennent, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Jésus leur dit encore, « en vérité, je vous le dis, moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs, des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas berger et à qui les brebis n'appartiennent pas, voit venir le loup, abandonne les brebis et s'enfuit. Et le loup s'en empare et les disperse. C'est qu'il est mercenaire et qu'il ne se met pas en peine des brebis. Moi, je suis le bon berger. » Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient « Il a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous » D'autres disaient « Ces paroles ne sont pas celles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles ?» On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent « Jusqu'à quand tiendras-tu notre âme en suspens ? Si toi tu es le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous et personne ne peut les arracher de la main du Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Les Juifs ramassèrent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus reprit et leur dit « Je vous ai fait voir beaucoup d'œuvres bonnes venant du Père. Pour laquelle de ces œuvres me lapidez-vous ? » Les Juifs répondirent « Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. » Jésus leur répondit « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux ? Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et l'Écriture ne peut être abolie, à celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous dites, tu blasphèmes ? Parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu ? Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais quand même, vous ne me croiriez pas. Croyez à ces œuvres afin de savoir et de reconnaître que le Père est en moi et moi dans le Père. » Ils cherchèrent encore à l'arrêter, mais il s'échappa de leurs mains. Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, à l'endroit où Jean avait d'abord baptisé, et il y demeura. Beaucoup de gens vinrent à lui et disaient « Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. » Et là, beaucoup crurent en lui. Il y a énormément de choses dans ce texte. On ne va pas pouvoir tout regarder, mais j'avais à cœur de sortir quelques points, notamment de cette parabole que Jésus utilise du bon berger. Jésus, il va l'utiliser pour affirmer qui il est. Et il y a un contraste assez saisissant entre l'image du berger, des brebis d'un côté, et ce que Jésus appelle successivement voleurs, brigands, étrangers, mercenaires. Devant l'aveuglement des pharisiens, leur méchanceté et leur obstination à l'égard de l'aveugle qui a été guéri, à lui faire renier son Seigneur, Jésus dénonce la manière dont les autorités religieuses dirigent le peuple de Dieu. Elles ne sont que des voleurs, des brigands, des étrangers et de simples mercenaires. Il n'y va pas avec l'eau de la cuillère. Hein. Des gens payés pour un travail et qui n'ont pas le souci des brebis du troupeau. Ils n'avaient pas le souci de cet homme qui avait été guéri. Et au travers de cette parabole du bon berger, Jésus va affirmer qui il est. Il est Dieu et son ministère. Et c'est ce qui va profondément déranger les pharisiens. Et il va y avoir une scission parmi les auditeurs. Certains diront « Il a un démon, il est fou, l'écoutez pas. » Et d'autres diront « Ces paroles ne sont pas celles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles ?» Et en quelque sorte, ce texte, il nous amène à nous positionner. Où les paroles de Jésus sont celles d'un fou, quand il dit au verset 18 « qu'il a le pouvoir de donner sa vie, n'importe qui peut donner sa vie, mourir pour quelqu'un d'autre. Mais il continue en disant « et j'ai le pouvoir de la reprendre ». Alors ça, qui peut dire ça ? Ou les paroles de Jésus sont celles de Dieu ? Et alors, tout ce qu'il dit dans ce texte, toutes ses promesses, sont véritables. Et je dois les prendre très au sérieux pour ma vie. Et j'aimerais qu'on regarde un petit peu, voilà, tout ce que Jésus dit. On va commencer avec le verset 9. Jésus nous dit « Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira, trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire, mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Il prend cette image donc de la porte. Le soir, on rassemblait les brebis dans un enclos, afin de les protéger des voleurs et des bêtes sauvages. Et ces enclos, ça pouvait être des grottes, ça pouvait être des abris. Et parfois, c'était des terrains entourés de murets en pierre, de petits murets en pierre. Et le berger, il dormait souvent à l'entrée afin de protéger le troupeau. Il faisait en quelque sorte fonction de porte. Il fait entrer les brebis et il les protège. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Jésus nous dit ici qu'il est la porte qui mène au salut. Et il va dire une chose similaire un peu plus loin, dans Jean 14 au verset 6, il va dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » En résumé, Jésus dit « Si vous croyez en moi, si vous croyez que je suis le seul chemin qui mène à Dieu, alors je vous promets deux choses. Vous serez sauvés, merci, et vous entrerez et sortirez et trouverez des pâturages. » Merci Nicolas. Vous serez sauvés des voleurs et des loups qui viennent pour disperser, tuer et détruire. Vous serez à l'abri et sous ma protection. Entrez par moi et vous serez à jamais en sécurité. Vous serez sauvés. Jésus dit un peu plus loin au verset 28, « Je leur donne la vie éternelle » en parlant de ces brebis. « Elles ne périront jamais et personne ne les arrachera de ma main. » Personne ne les arrachera de ma main. Il est question d'éternité. Même si les croyants peuvent s'attendre à souffrir sur la terre, Jésus ne nous l'a pas caché, que les chrétiens seraient persécutés comme ils l'ont persécuté. Satan ne peut s'en prendre à leur âme, ni leur voler le don de la vie éternelle avec Dieu. Il y a de nombreuses occasions où la crainte peut s'emparer de nous. Mais si nous choisissons de suivre Jésus, il nous garantit une sécurité qui dure éternellement. C'est le seul chemin. Ces dernières années, il y a un mouvement culturel et scientifique tentant d'améliorer l'être humain à l'aide de nouvelles technologies qui est devenue partie intégrante de notre paysage social. C'est une partie d'un article que j'ai lu dans la revue qui est là-bas, Promesse. Il s'agit du transhumanisme. Alors qu'est-ce que c'est le transhumanisme ? C'est un courant de pensée selon lequel les capacités physiques et intellectuelles de l'être humain pourraient être accrues grâce aux progrès scientifiques et technologiques. On entend parler d'implants cérébraux, on entend parler d'êtres humains augmentés. Le désir dont s'est nourri le transhumanisme, c'est celui de l'éternité, de l'immortalité. Il dit que l'être humain peut guider sa propre évolution. Il peut devenir son propre créateur, et ce faisant, il abolit toutes les limites, à commencer par celles qui différencient les sexes. Cette limite du genre n'est cependant qu'un début, car le transhumanisme est une vue radicalement nouvelle du corps humain. Ce dernier devient une ressource qu'il appartient à chacun d'augmenter, d'améliorer, d'utiliser. Il devient la principale valeur d'échange que nous avons. Et le transhumanisme désire reformer un homme à son image, une image sans limite, sans contour, sans forme. Il porte atteinte à Dieu en compromettant ce que le Créateur a formé à son image et cherche à se débarrasser de la nature humaine, ni plus ni moins. C'est en tout homme, ce désir d'éternité, cette quête d'éternité. On cherche, on y travaille, c'est la fontaine de Jouvence, c'est de tout temps. Et l'Écriture, en fait, nous dévoile que l'éternité qui est dans le cœur de l'homme et que nous désirons, elle est une personne. Au lieu d'une confiance en l'homme transhumain, la foi chrétienne nous offre le don d'un Dieu qui est devenu humain. Il n'y a pas besoin de chercher à être augmenté. On a cette espérance de la vie éternelle avec Jésus. Tu veux chercher l'éternité, le seul chemin, c'est Christ. Et derrière Christ, il nous permet de nouveaux cieux, une nouvelle terre, des corps renouvelés, où il n'y aura plus de maladies, plus d'injustices, plus de pleurs, plus de morts. Le salut ne s'obtient que par Jésus. Christ est nécessaire et Christ est suffisant pour le salut. Il n'y a rien besoin d'autre. Et si ce matin tu te demandes ce qu'il faut faire pour être sauvé, la réponse est « crois au Seigneur Jésus ». Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est une parole de Paul. Si vous vous souvenez, dans le livre des Actes, au geôlier, qui pose cette question, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé ? Crois au Seigneur Jésus. Jésus dit, je suis la porte qui mène au salut. Et contrairement au voleur qui prend la vie, non seulement Jésus la donne, mais il promet une vie plus abondante et pleine. Elle est éternelle et pourtant, elle commence dès maintenant. La vie en Jésus est infiniment meilleure. parce que nous avons accès à l'abondance de son pardon. Nous avons accès à l'abondance de son amour. Nous avons accès à l'abondance de sa joie, à l'abondance de sa paix, de sa parole. Le psaume 23, il commence avec « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. » Les brebis entrent se réfugier dans la bergerie et sortent paître sous la houlette de leur berger. Et c'est le deuxième point vers lequel on va arriver, Jésus, qui nous dit au verset 11, « Moi, je suis le bon berger, et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il est bon parce qu'il connaît ses brebis et qu'il donne sa vie pour elles. Il n'est pas comme le mercenaire dont il est question dans ce texte, qui n'est pas le berger et qui ne se préoccupe pas des brebis. Il est payé pour un travail, mais il ne se préoccupe pas des brebis. Le bon berger donne sa vie pour elles. Et il donne sa vie de manière littérale. Jésus va aller au-delà de risquer sa vie. Il va la donner, subissant la mort pour le compte des pécheurs. Et c'est cela que laisse entendre Jésus quand il dit plus haut dans l'évangile de Jean, il y a plusieurs passages où Jésus annonce ça. En Jean 2, verset 19, il dit « Détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai. » En Jean 3, verset 14, il dit « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » En Jean 6, au verset 51, il dit « Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. » Sa vie, Jésus va la donner à la croix. Jésus va donner sa vie à la croix. Il va mourir pour nous. Il va choisir de mourir pour nous. Il va donner. On ne va pas lui prendre. Il va donner sa vie. Parce que ce qui nous sépare de Dieu, ce qui nous a éloignés de Dieu, c'est notre péché. Et il fallait que quelqu'un meure, quelqu'un qui était saint, sans péché. Et c'est Jésus. Et Jésus, il est venu pour ça. Il est venu donner sa vie pour ça, pour toi, pour te sauver. Et c'est pour ça qu'il dit « Je suis la porte ». Mais si le berger meurt, les brebis alors sont à la merci des loups. Elles seront dispersées et elles mourront. Et pour cela, Jésus y précise, comme je l'ai dit tout à l'heure, « Personne ne m'ôte la vie, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Le Père l'a envoyé mourir pour ses brebis et il lui a commandé de ne pas abandonner ses brebis. » mais de ressusciter d'entre les morts. Et il l'a fait. Et c'est pour cela qu'on peut entrer et sortir avec lui. Il est mort pour nos péchés, afin que nous soyons pardonnés et que nous ayons accès à Dieu. Il a été élevé pour être le grand berger des brebis. C'est Hébreux 13, versets 20 à 21, qui le déclare. « Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende apte à tout ce qui est bien pour faire sa volonté. » Qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Jésus, le bon berger, est vivant aujourd'hui. Et il continue de conduire son troupeau, encore et encore, lui donnant une vie sous sa protection et une vie abondante. Jésus est la porte, Jésus est le bon berger. Et mon troisième point, c'est Jésus te connaît et il t'appelle par ton nom. Au verset 3, il dit « Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les mène dehors. » Il appelle par leur nom. Au verset 14, il dit « Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent comme le Père me connaît et comme je connais le Père. » Au verset 27, il dit « Moi, je les connais et elles me suivent. » Il le répète plusieurs fois. Et au verset 29, « Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. » Et personne ne peut les arracher de la main du Père. Moi et le Père, nous sommes un. Jésus connaît ses brebis et les appelle par leur nom. N'est-ce pas merveilleux ? Anthony, Rebecca. Il les appelle par leur nom. Être une de ses brebis vous permet de répondre à son appel. Et pas l'inverse. Répondre à son appel ne fait pas de vous l'une de ses brebis. C'est ce qui est un peu choquant dans ce texte. La détermination finale de ta vie ne repose pas sur ta propre volonté, sur ta propre force ou ta propre puissance. Jésus, il dit aux pharisiens au verset 26, « Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. » Puis il ajoute, « Mes brebis entendent ma voix, moi je les connais, et elles me suivent. » Dieu a choisi au milieu de l'humanité déchue certaines personnes pour qu'elles lui appartiennent. Et ce que Dieu a choisi, il les a aussi donnés au Fils. C'est ce que nous dit ce texte. Et ceux qu'il a donnés au Fils, le Fils les a aussi appelés. Et pour ceux qu'il a appelés, le Fils, il a aussi donné sa vie. Et à ceux pour qui il est mort, il a donné la vie éternelle. Et ses brebis entendent sa voix. Elles entendent sa voix et elles croient. Elles entendent sa voix et elles croient. C'est ce que Paul dit aux Éphésiens quand il écrit « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés, selon le dessein bienveillant de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son nom bien-aimé. » Dieu te connaît et il t'appelle par ton nom. C'est quelque chose qui nous dépasse. Mais il est Dieu. Il est Dieu, il est de toute éternité. Ça ne marche plus ? Là ? C'est bon ? Ok. Il est de toute éternité. Il est l'alpha et l'oméga. Il est souverain. Et ça devrait aussi encourager notre témoignage. Car Jésus nous donne cette assurance que ses brebis reconnaîtront sa voix et le suivront. Il ne nous appartient pas de savoir qui elles sont. Ça, c'est l'affaire de Dieu, ce n'est pas la nôtre. Jésus, il nous appelle à aller, il nous appelle à témoigner de son amour. Et c'est une certitude, ses brebis reconnaîtront sa voix et le suivront, car Jésus le déclare. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Il y a un missionnaire un jour qui a dit « Au début de ma carrière missionnaire, j'ai dit que si la prédestination, parce que c'est de ça dont il est question, était vraie, je ne pourrais pas être missionnaire. » Et maintenant, après 20 ans de lutte contre la dureté du cœur humain, je ne dis que je ne pourrais jamais être missionnaire si je ne croyais pas à la doctrine de la prédestination. Cela donne de l'espoir que le Christ a très certainement un peuple parmi les nations. C'est Jésus qui nous le dit. J'ai d'autres brebis. Et il nous demande d'aller. Comme le Père m'a envoyé, il nous dit, moi aussi je vous envoie. Et on continue la mission de Jésus. Et quand Jésus prie pour nous, en Jean 17, verset 20, il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, il était question des disciples, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Tout comme la voix du berger a appelé ses brebis de ses propres lèvres en Palestine, de même il parle encore aujourd'hui à travers l'Évangile et à travers ce que nous allons témoigner. Et il appelle ses brebis par leur nom. Elles entendent sa voix et elles le suivent. Et on a cette assurance-là que Jésus parle, il appelle ses brebis. Ses brebis reconnaissent sa voix et elles le suivent. On continue. Verset 16. « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Et ici, les autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie représentent les gentils, les non-juifs, les païens. Car Jésus est aussi venu les sauver. Les brebis sont celles qui reconnaissent la voix du berger, qui le suivent, qui l'écoutent et qui viennent à Jésus, juifs et non-juifs. Et en disant cela, quelque part, Jésus dévoile la portée universelle de sa mission. Il est venu donner sa vie pour les péchés du monde. Et bien souvent, les hommes ont tendance à limiter les bienfaits de Dieu au groupe auquel ils appartiennent. Mais Jésus ne fait pas cela. Ce n'est pas en tout cas ce qu'il annonce. Ce verset implique que les autres brebis que Jésus a sont dispersées en dehors de l'enclos actuel. Et pour Jean, l'évangélisation consiste en quelque sorte à rassembler les enfants de Dieu. Cette parole, elle doit nous aider à élargir notre champ de mission, à ne pas limiter nos préjugés, à ne pas le limiter, pardon, par nos préjugés, par nos craintes ou nos doutes. des brebis. Il peut y en avoir partout. Jésus, il a vu de son temps que les païens étaient méprisés. Ces mangeurs de poissons impurs et incirconcis, nous n'entrerons pas dans leur maison. Jésus, il voyait cela arriver, et cela a perduré à travers différents siècles d'histoire. Les chrétiens se sont enfermés sur eux-mêmes en méprisant ce qui n'était pas des leurs, et parfois pire, vraiment pire. Il a donc donné cet avertissement à son troupeau. « J'ai d'autres brebis. Ne vous renfermez pas sur vous-mêmes. Ne devenez pas, nous, les quelques élus. Je dois les amener. Cela me coûtera la vie. Cela pourrait vous coûter la vôtre. Et il y aura un seul troupeau avec un seul berger, issu de chaque groupe ethnique de la planète. Mes brebis entendent ma voix. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher de la main du Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Et Jean, il a écrit plus loin, en Apocalypse, et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Dieu triomphera. Son dessein s'accomplira et il réunira ses brebis. Et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Seigneur s'est engagé à les ramener à la maison. Et ça doit nous encourager à oser ouvrir la bouche, à oser partager cette bonne nouvelle de Jésus. En conclusion, j'avais envie, en ce début d'année, de te dire, de te rappeler ce matin, tu es aimé de Jésus. Il te connaît. Et il t'appelle par ton nom. Il a donné sa vie pour te sauver et te donner un avenir éternel. Dès à présent, une vie abondante dans sa présence. Il te conduira. Il te gardera. Il prendra soin de toi. Il te fera entendre sa voix et tu la reconnaîtras. Lui seul avait le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre car il est Dieu, car Dieu le Père et Dieu le Fils sont un. Jésus rassemble ses brebis de toutes les nations et il te donne cette assurance. Alors que tu proclameras son évangile au monde, ses brebis reconnaîtront sa voix et viendront à lui. Comme le Père connaît Jésus et Jésus connaît le Père, Jésus connaît ses brebis et ses brebis le connaissent. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci d'avoir ouvert nos yeux sur ton amour. Merci d'avoir donné ta vie pour nous. Merci pour cette espérance que nous avons en toi, de la vie éternelle, de l'éternité avec toi. Merci pour ta présence dans nos vies, dès aujourd'hui. Merci parce qu'on peut s'appuyer sur toi, te faire confiance, parce que tu tiens nos vies dans ta main, parce que tu es le bon berger, parce que tu prends soin de nous. Même quand ça sera difficile, Seigneur, j'ai l'assurance que tu es là et que tu as un avenir extraordinaire pour moi, pour chacun d'entre nous. Merci de m'encourager à ouvrir la bouche, à proclamer cette bonne nouvelle, parce que tu le dis, tu rassembles un peuple, tu rassembles tes brebis, tu parles et les brebis reconnaissent ta voix, parce que tu es Dieu, parce que c'est ton plan. Sois glorifié, Seigneur, sois glorifié dans nos vies. Amen.